l'énergie. Le monde ne peut pas revenir à la loi de la jungle où les forces attaquent aux faibles.
Plus le président américain tempête, et plus la Chine apparaît comme un pôle de stabilité. D'autant que ces derniers mois, Pékin a su tenir tête à Donald Trump en pleine guerre des taxes douanières.
Si les États-Unis persistent, la Chine se battra jusqu'au bout.
Résultat, la Chine, obligée de privilégier de nouveaux marchés pour éviter les taxes américaines, a enregistré un excédent commercial record et l'objectif de croissance a été atteint.
En 2025, malgré les vents contraires, l'économie chinoise a enregistré une croissance de 5%.
La Chine engrange les bénéfices du chaos provoqué par Donald Trump. Même l'Inde, grand rival de la Chine, se tourne vers Pékin, qui de son côté a ses propres obsessions, comme les terres rares et Taïwan.
Les compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan sont unis par des liens du sang. La réunification nationale est irréversible.
Alors faut-il y réfléchir à deux fois avant de se jeter dans les bras de la Chine? Est-elle un partenaire fiable? Doit-elle finalement remercier Donald Trump de lui avoir redonné des couleurs?
Peut-être un peu excessif, on a toujours des débats sur l'état de l'économie chinoise. Certains prédisent la catastrophe, la stagnation. Donc c'est très difficile d'avoir des conclusions définitives. Mmh. Et en tout cas, d'un point de vue commercial, effectivement, il continue à avoir des exportations. Et même certains estiment qu'il y en a beaucoup trop, que ça pose des problèmes, évidemment, à des pays qui sont en concurrence avec elle. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est l'orientation de ces exportations, c'est-à-dire moins vers les États-Unis, plus vers l'Europe, beaucoup plus vers l'Afrique, enfin, on part peut-être pas très haut, et bien entendu l'Asie. Et la grande interrogation, c'est est-ce que, évidemment, la Chine ne passe pas par d'autres pays pour pouvoir contourner les droits de douane dont nous avons déjà parlé.
Brandir la menace du contrôle d'exportation de ces terres rares.
De ces terres rares,
puisque comme vous le savez, la Chine produit près de 90% des terres rares mondiales. Et donc, quand Donald Trump a menacé d'imposition de nouveaux droits de douane, la Chine a, en octobre dernier, menacé de restreindre l'exportation de ces terres rares. Et ça aurait eu des conséquences sur les technologies américaines, sur la chaîne d'approvisionnement, conséquences importantes. Donc, suite à ça, il y a eu une trêve commerciale qui a été signée le 30 octobre dernier à Busan, en Corée du Sud. C'est une trêve temporaire, parce que comme vous le savez, Donald Trump doit se rendre en avril aux Chine.
Tout peut arriver.
Et Scott Bessent, qui est le secrétaire américain au Trésor, a dit la Chine a été un dur négociateur, d'ailleurs c'est les termes de Donald Trump, c'est un dur négociateur, une dure négociatrice, mais elle a fait une erreur parce que ça nous a rappelé à quel point nous sommes dépendants des terres rares et d'ici 2 ans, nous allons totalement limiter la dépendance des terres rares pour que la Chine ne puisse plus agiter cette menace. Et donc on entre, et vous avez raison, dans une dynamique, certains disent de découplage, de dérisquage, c'est-à-dire de limitation de la dépendance, mais dans deux sens. Les États-Unis le font déjà depuis longtemps, mais la Chine, elle, depuis maintenant plus de 4 ans, et encore plus dans son plan quinquennal à venir en mars, elle parle d'autosuffisance technologique, c'est-à-dire qu'elle ne veut plus dépendre des États-Unis, mais aussi de l'étranger, quel que soit le pays, pour la production et l'assemblage des technologies.
En tous les cas, là, c'est un petit peu évident, parce qu'il faut quand même préciser qu'ils sont sous la menace d'une invasion des troupes américaines. L'armée canadienne a diffusé récemment un plan susceptible de l'invasion américaine, comment ils pourraient s'y prendre s'ils devaient passer à l'attaque. Donc évidemment, le Canada ne se sent pas très bien vis-à-vis de son grand voisin américain. Donc il a négocié avec Xi Jinping. Mmh. Alors c'est critiqué au Canada, parce que la négociation, en gros, c'est une baisse des tarifs douaniers sur les produits agricoles canadiens qui iraient en Chine, et en contrepartie, évidemment, c'est la pénétration des automobiles électriques chinoises, 49 000 par an, ce qui est énorme. C'est énorme. Et ce qui annoncerait, dans certains États canadiens, la fin de leur industrie automobile. Donc, on n'y est pas encore, il y a des interrogations, et c'est le cas pour le Canada, c'est le cas aussi pour nous, on réfléchit, on a des dangers, on a des menaces, etc. Donc évidemment, tout ça n'est pas linéaire, on ne va pas basculer d'une relation particulière avec les États-Unis à une nouvelle relation particulière avec la Chine.
Il y a pas mal de secteurs pour lesquels les exportations vers la Chine ne sont plus si intéressantes que ça, parce que quand même ce qui a quand même beaucoup transformé la situation économique, c'est la montée en gamme de l'industrie chinoise dans à peu près tous les domaines. Et par exemple, on va le voir avec l'aéronautique, on va sans doute le voir aussi avec le luxe. Finalement, l'Eldorado chinois dans les quelques secteurs, le cas français, ça va peut-être plus être l'Eldorado. Et on a au contraire, ben oui, là aussi, bien entendu. Et on a à l'inverse, la question, c'est que nous, on essaie plutôt de faire venir les investissements. Et on l'a vu encore récemment avec le président Macron, de faire venir des investissements. Et certains disent même, on est à presque un renversement finalement historique, c'est-à-dire qu'on voudrait aspirer la technologie chinoise en attirant les investissements, alors que pendant 20 ans ou 30 ans, on a fait l'inverse. Donc c'est pas facile de se tourner vers la Chine. On n'a pas énormément d'atouts pour rentrer dans ce marché. C'est pour ça aussi qu'on commence à on essaye de signer le Mercosur avec l'Inde ou avec d'autres, parce que on va pas se jeter dans les bras de la Chine.
Sondage d'opinion du Conseil européen pour les relations internationales, c'est un think tank pan-européen. Le Make America Great Again serait en train de peut-être se transformer en Make China Great Again. Dans les pays qui ont été interrogés, 15 pays européens, 7 non-européens, la majorité, regardez, des répondants, estime que l'influence mondiale de la Chine va indéniablement augmenter dans les 10 prochaines années. Mais surtout, de plus en plus de pays perçoivent la Chine à la fois comme un allié, mais aussi comme un partenaire indispensable. Et ça, c'est le cas notamment des pays du Sud global, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde, mais aussi la Russie. Ces pays considèrent d'ailleurs que leurs relations avec Pékin vont se renforcer dans les 5 prochaines années. Ça ne veut pas dire pour autant que les États-Unis sont sur la touche. Au contraire, plus de 3/4 des Indiens considèrent les États-Unis comme un allié et un partenaire fiable. Et de la même façon, plus de la moitié des Brésiliens et 48% des Sud-Africains souhaitent, eux, renforcer leurs liens économiques, stratégiques avec les États-Unis au cours des 5 prochaines années. Le seul point où on voit que la politique menée par Donald Trump montre quelques signes de faiblesse, c'est que l'opinion mondiale, depuis son arrivée au pouvoir, est passée d'un accueil favorable à une critique généralisée. Alice Ekman,
même si les relations bilatérales se font notamment en contexte non démocratique par les dirigeants et pas par la population, qui pèse parfois moins dans la prise de décision. Et je pense notamment, par exemple, à la Russie. Le rapprochement Chine-Russie est voulu au plus haut niveau. Et pas toujours d'ailleurs soutenu par toute la population, même si on n'a pas vraiment la visibilité qu'on aimerait avoir en tant que chercheur. Ce que je voudrais dire, c'est quand on voit les pays qui ont été listés, la Chine a beaucoup investi au sein des BRICS, et notamment des BRICS+, qu'elle a élargi avec succès. Elle a conduit récemment d'exercices militaires conjoints avec certains d'entre eux, y compris l'Afrique du Sud. Elle conduit régulièrement exercices militaires conjoints avec la Russie, notamment dans la région Asie-Pacifique. Et elle se tourne réellement aujourd'hui vers ce qu'elle appelle, elle, le Sud global. Je sais que cette expression est contestée, mais la Chine l'adopte pleinement. Encore dans le dernier discours à Davos hier, la Chine l'a mentionné.
Et elle comme leader du Sud global.
Oui, plus que ça.
C'est pas nouveau, hein. Sur les non-alignés en 55, ils voulaient être les leaders avec Chou En-lai et Mao. Donc c'est pas tellement nouveau.
C'est
un travail de fond.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même une période où la Chine se positionnait plus comme telle, parce qu'elle n'avait pas les moyens de le faire, parce qu'elle n'avait pas cette statut de puissance économique, deuxième puissance économique mondiale. Mais aussi, elle n'avait pas l'ambition de le faire. Et ce qui a vraiment marqué un tournant, et en partie avec un écho avec l'ère maoïste, c'est l'arrivée de Xi Jinping en 2012 à la tête du parti. Et depuis notamment 2018, il parle d'élargir le cercle d'amis de la Chine en s'adressant à des pays qui partagent un positionnement ouvertement anti-occidental. Et il ne faut pas sous-estimer cette dynamique aux Nations Unies.
Mais juste... Question là par rapport au Conseil de la paix, le nouveau projet du président Trump, qui serait tout simplement une ONU, un Conseil de sécurité bis.
Avec un ticket d'entrée à 1 milliard.
Leur réaction était très simple. Ils ont dit nous. On est plutôt sur le cadre institutionnel classique, donc les Nations Unies. Ils n'ont pas encore répondu oui ou non, contrairement à la France qui a dit non, mais au moins, ils ont toujours défendu cet aspect-là. Contrairement aux États-Unis, la Chine ne veut pas la destruction de l'Europe. La Chine n'a pas publié une stratégie de sécurité comme les États-Unis en décembre dernier, où elle annonçait officiellement, les Américains annonçaient officiellement qu'on était une civilisation en perdition.
Mais parce que peut-être...
L'intérêt de la Chine, c'est que nous restions unis européens parce qu'il y a un marché de 450 millions de personnes et pas un marché de gens avec un PIB bas, mais avec une vraie valeur ajoutée de pouvoir d'achat. Donc l'intérêt de la Chine, c'est pas de détruire l'Europe.
C'est un enjeu important. La Chine se présente comme la puissance stable qui défend les institutions internationales parce qu'ils sont très attachés à la charte des Nations Unies de 1945 qui est en fait assez conservatrice notamment sur la question des ingérences internationales, et avec la Russie, défendent justement cette idée. Et d'ailleurs, c'est la rhétorique qu'on entend depuis un moment, que finalement la Chine, nationaliste certes, a été la première à signer la charte des Nations Unies. Donc, parce que c'est finalement la souveraineté. Et on estime en Chine que ce qui s'est passé depuis 89-90, les interventions, les questions de droits de l'homme, les ingérences, etc., c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Moi, j'ai quelques doutes sur le fait que la Chine veuille vraiment dominer aux Nations Unies. On a l'impression que l'enthousiasme de la Chine pour les Nations Unies, où elle prenait un certain nombre de postes, on pensait qu'elle participait beaucoup aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, on pensait qu'elle allait en prendre la direction. On a l'impression maintenant que ça s'est quand même un peu refroidi, même si, encore une fois, elle veut avoir un rôle important, mais elle multiplie finalement ce qui a été dit, tout un tas de forums avec des pays du Sud. Elle lance de grandes idées sur la gouvernance, la sécurité, le développement, la civilisation, etc., etc. Elle n'essaie pas spécialement de les défendre à l'ONU. Ce qu'elle veut, c'est que les autres pays reprennent ce vocabulaire plutôt dans des relations bilatérales.
C'est que la Chine considère que l'Europe fait partie de l'Occident. Encore aujourd'hui, elle considère que les tensions transatlantiques actuelles sont du pain béni et source d'opportunisme et d'opportunité. Et elle cherche à diviser pour mieux régner au sein de l'Union européenne. C'est évident. On a des éléments. Elle favorise les relations bilatérales. Elle prépare assez peu les sommets UE-Chine, notamment le dernier. On va voir le prochain. Elle considère que l'Union européenne est potentiellement un acteur hostile du simple fait que parfois, l'Union européenne parle des droits de l'homme ou tout simplement a adopté des tarifs
sur les importations. L'Union européenne a beaucoup parlé des Ouïghours,
sur les importations sur les voitures et électriques. Et puis, il faut se rappeler aussi que cloisonner la relation, c'est-à-dire on essaie de renforcer la relation économique et de mettre de côté les sujets qui fâchent politiquement pour faire avancer les choses quand même, ça ne marche pas. Par exemple, il y a quelques années, comme vous le savez, l'Union européenne et la Chine ont négocié pendant 6 ans un accord d'investissement, un accord cadre d'investissement qui a volé en éclats, qui a été gelé au Parlement européen sur le sujet du Xinjiang, des Ouïghours, les sanctions et contre-sanctions qui étaient prises contre des parlementaires européens. Donc c'est un exemple. Et plus généralement, il faut se rappeler que la Chine converge avec la Russie sur sa détestation de l'OTAN, sa détestation de l'alliance occidentale, et en tant qu'allié, aujourd'hui on reste allié des États-Unis, qu'on le veuille ou non, je ne sais pas, ça dépend des perceptions, mais la Chine considère que nous sommes une puissance à marginaliser. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que la Chine joue à long terme, vous avez raison, la diplomatie du nombre, aux Nations Unies, mais pas uniquement, c'est vrai, en multipliant les forums et les investissements de la gouvernance mondiale, pour se dire à terme, à l'horizon 2049, il faut qu'on soit numéro un dans tous les domaines pour dépasser les États-Unis, diplomatiquement, technologiquement, militairement, institutionnellement, normativement. Mais pour se le faire, nous ne pouvons pas faire ça tout seuls. Il faut que nous ayons le soutien de partenaires et d'un nombre de partenaires qui dépassent en nombre le nombre de pays occidentaux. Et c'est donc un rapport de force qu'elle cherche à établir, que l'on doit observer comme tel et qui ne dépend pas de l'administration Trump. Parce que la Chine avait déjà cette stratégie lorsque Joe Biden est au pouvoir, et vous avez raison de le rappeler, c'est une stratégie de très long terme.
C'était vraiment pour rappeler, parce que c'est maintenant le nouveau discours, et qui est en partie justifié quand même, que la Chine a eu un rôle très important dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et dans la victoire des Alliés. Mais là, ce qui est assez intéressant, parce que vous avez parlé de la démonstration de force militaire, c'est qu'une des interprétations chez certains Américains, c'est qu'effectivement cette passivité sur le Venezuela, enfin il y a eu quand même des discours, mais il n'y a pas eu d'action évidemment militaire sur l'Iran de cette manière-là, montre que finalement c'est les États-Unis qui sont très largement la puissance militaire numéro un, et que la Chine, malgré tout ses missiles et autres, ne peut pas faire grand-chose en dehors de cet espace. Alors évidemment, la Chine n'a pas encore une stratégie qui va au-delà de cette région d'un point de vue militaire, puisque l'objectif c'est quand même autour de Taïwan, de mer de Chine du Sud, etc. Bien entendu, l'idée que la Chine était le grand allié de l'Iran était aussi très excessive. Il n'y a pas une dépendance considérable à l'égard du pétrole iranien. L'Arabie saoudite est aussi un des grands amis de la Chine. Donc, si vous voulez, il ne faut pas imaginer que finalement, ils ont abandonné leur super allié. Ce n'est pas du tout ça.
Mais d'ailleurs, ils ne veulent pas avoir...
L'alliance
ça n'est pas être engagés par des accords de sécurité. Donc, ils restent encore sur...
C'est-à-dire, ils veulent avoir les mains...
Venezuela, ce qui se passe au Groenland, va servir de marqueur ou d'exemple, ni même de contre-exemple pour la Chine à Taïwan, qui a sa propre stratégie. Il faut se rappeler que Pékin considère que Taïwan est une question intérieure. Et donc, il considère que l'expansionnisme ou les actions extérieures des États-Unis sont incomparables. Et la stratégie de Xi Jinping est plutôt une stratégie ciblée au sein de la population taïwanaise. On pourrait en parler pendant longtemps. Mais la Chine a beaucoup condamné le Venezuela. Hein,
l'action américaine
au Venezuela, elle très fortement, y compris aux Nations Unies, en parlant d'hégémonisme américain, que c'était les États-Unis qui créaient le chaos. Elle a aussi beaucoup soutenu le régime iranien actuel. Elle continue à le faire dans ses discours, notamment il y a quelques temps lors des frappes israéliennes et américaines. Et elle s'oppose à ce qu'elle considérait des révolutions de couleur fomentées par l'Occident, des changements de régime à travers le monde. Ouais. Et en 2023, elle a signé un accord pour lutter avec la Russie, un accord bilatéral pour lutter ensemble contre les révolutions de couleur. Alors, avant tout sur leur territoire, mais bien sûr, il y a cette vision de rivalité systémique qui est en place. Alors, la Chine, aujourd'hui, a perdu beaucoup d'intérêt au Venezuela, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un soutien très marqué à certains gouvernements. D'accord. Et qui va se renforcer, à mon avis, par des actions.
Plus Trump sera impérialiste, plus il foulera au pied le droit international, plus ça donnera du grain à moudre à Moscou et à Pékin pour faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est très clair et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un certain nombre de grands présidents, de chefs d'État à Davos ont parlé de la fin d'un monde. C'est clair que c'est la fin d'un monde, celui qui a été construit en 1945, qui repose sur le droit international. Donc on rentre là très clairement dans un inconnu.
Beaucoup plus discret, He Lifeng, l'un des 4 vice-premiers ministres chinois envoyé par Xi Jinping au Forum économique mondial. Il s'est exprimé hier avec un message d'ouverture qui contraste avec celui de Trump. La Chine est le partenaire commercial de tous les pays plutôt qu'un adversaire, et le développement de la Chine est une opportunité plutôt qu'une menace pour le développement économique mondial. La Chine espère tirer profit du chaos des années Trump. Alors que pendant les années Obama et Biden, les États-Unis fédéraient leurs alliés contre la puissance chinoise, sous Trump, Washington attaque ses alliés historiques et laisse le champ relativement libre à Pékin. Pékin qui a su résister à une première surtaxe états-unienne de plus 100% que voulait lui imposer Washington en faisant du chantage à l'export de ses terres rares. Au-delà, Pékin enregistre pour 2025 un certain nombre de bons résultats, ce qui n'empêche pas, vous allez voir, des faiblesses structurelles de son économie. 100 milliards de dollars, c'est l'excédent commercial record enregistré par la Chine en 2025, soit une hausse de 20%, en dépit du recul de ses exportations vers les États-Unis, moins 20% sur un an. Les entreprises chinoises ont compensé par une diversification de leurs clients vers l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique latine, tandis que les échanges entre l'Union européenne et la Chine ont augmenté de 6%. La Chine profite également de 2 revirements de l'administration Trump, qui ne veut plus subventionner ni les énergies renouvelables, ni les voitures électriques. Une bonne nouvelle pour Pékin, qui a installé en 2025 plus de panneaux solaires que l'ensemble du parc états-unien existant. Une bonne nouvelle aussi pour BYD, passé devant Tesla en 2025. On voit ici son siège à Shenzhen, au cœur de la Silicon Valley chinoise, et sa principale méga-usine à Chengzhou, qui produirait un véhicule électrique par minute. En dépit de ces bonnes nouvelles chinoises, la deuxième économie mondiale est enlisée dans une crise de confiance. Voyons pourquoi. En cause, l'éclatement de sa bulle immobilière en 2021, qui a longtemps représenté 30% du PIB chinois et 20% des emplois. Face à ces incertitudes, les Chinois épargnent massivement. Ils mettent de côté le tiers de leurs revenus et consomment moins, ce qui tire l'économie à la baisse. Autre fragilité, avec 1,41 milliard d'habitants, le géant asiatique connaît un déclin démographique. Après des années de politique de l'enfant unique, la population chinoise diminue et surtout, elle vieillit. Enfin, troisième problème, l'endettement de la Chine. En dépit de ses fragilités structurelles, la Chine, on l'aura compris, profite de ce début de second mandat Trump. Terminons avec cette analyse du Wall Street Journal. Choisir entre le tyran prévisible de Pékin ou celui imprévisible de Washington pourrait être demain le dilemme des Européens, sachant que les décideurs ont toujours une préférence pour ce qui ne varie pas.